Évangile selon Jean, chapitre 9. Guérison d'un aveugle, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Et comme il passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogèrent, disant, « Rabbi, qui a péché, celui-ci ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents, et c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit ces choses, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et mit la boue comme un onguent sur ses yeux, et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, ce qui est interprété « envoyé ». Il s'en alla donc, et se lava, et revint voyant. Les voisins donc, et ceux qui, l'ayant vu auparavant, savaient qu'il était mendiant, dirent, « N'est-ce pas celui qui était assis et qui mendiait ?» Quelques-uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non. » Mais il lui ressemble. Lui dit, c'est moi-même. Ils lui dirent donc, comment ont été ouverts tes yeux? Il répondit et dit, un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux, et me dit, va à Siloé et lave-toi. Et je m'en suis allé, et je me suis lavé, et j'ai vu. Ils lui dirent donc, où est cet homme? Il dit, je ne sais.
Lecture de l'étude. Dans ce chapitre, le Seigneur ne présente plus sa parole comme moyen d'avoir la vie, parole rejetée. Il accomplit l'œuvre par laquelle l'homme, moralement aveugle, peut profiter de la lumière venue dans sa personne afin de devenir voyant, œuvre aussi rejetée. Comme Jésus passait après avoir quitté le temple où l'on voulait le lapider, toujours actif dans son amour, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Il le vit. On ne le lui amena pas comme dans d'autres cas. Il était assis et mendiait, verset 8. Jésus, la lumière du monde, était heureux de faire profiter un malheureux de ce qu'il apportait aux hommes et dont tous avaient besoin moralement. Ses disciples l'interrogèrent sur cet homme. « Rabbi, disent-ils, qui a péché, celui-ci ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Versets 1 et 2. Ils pensent au gouvernement de Dieu au milieu de son peuple, sous lequel le coupable porte dans ce monde les conséquences de ses fautes. Dans ce cas, il ne s'agissait pas de péchés qui eussent attiré le jugement sur cet homme. Il est une figure de l'état d'aveuglement moral dans lequel l'homme se trouve dès sa naissance. Nul ne saurait voir comme Dieu voit. Le péché ayant fait séparation entre lui et Dieu, qui est lumière, il est dans les ténèbres et ténèbres lui-même. Jésus répond, « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Verset 3. Le Seigneur veut dire que l'état d'aveuglement de l'homme existe dès sa naissance. Il n'est pas produit par tel ou tel péché. L'homme naît ainsi. Tous sont enfants d'Adam, nés dans l'état où leur premier père les a placés par sa chute. Le Seigneur était là précisément pour accomplir l'œuvre de Dieu qui les délivrerait de cette cécité morale, car Dieu seul peut donner la vue à celui qui n'a jamais vu, ou faire d'un pécheur souillé un saint, et d'un mort un vivant, comme nous le verrons au chapitre 11. Jésus leur dit, « Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis qu'il est jour. La nuit vient, en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Versets 4 et 5. La lumière brillait sur ce monde par la présence de Jésus. Il en faisait profiter ceux qui voulaient la recevoir. Mais elle allait disparaître, puisque les hommes n'en voulaient rien. Lorsque Jésus ne serait plus ici-bas, personne ne pourrait accomplir une telle œuvre. Non que Dieu n'ait pas agi depuis, le Saint-Esprit étant venu pour faire valoir avec puissance les conséquences bénies de l'œuvre de Christ sur la croix. Les actes des apôtres en donnent le merveilleux récit. Mais le temps dans lequel le Seigneur se trouvait sur la terre était un jour unique, où la lumière brillait sur ce monde. Après son départ, le monde demeurerait dans les ténèbres qui l'avaient préférées à la lumière, nuit morale à laquelle rien ne pourrait être changé, jusqu'à ce que le Seigneur apparût comme soleil de justice pour le jugement des méchants et la délivrance des justes. Voir Malachie 4.
Car voici le jour vient brûlant comme un four, et tous les orgueilleux et tous ceux qui pratiquent la méchanceté seront du chaume. Et le jour qui vient les brûlera, dit l'Éternel des armées, de manière à ne leur laisser ni racines ni branches. Et pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice, et la guérison sera dans ses ailes, et vous sortirez, et vous prospérerez comme des veaux à l'engrais, et vous foulerez les méchants, car ils seront de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je ferai, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que je lui commandai en Horeb pour tout Israël, des statuts et des ordonnances. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel, et il fera retourner le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction.
Dans le chapitre précédent, Jésus présentait sa parole, avons-nous dit. Ici, il accomplit une œuvre, l'œuvre de Dieu, comme sa parole était la parole de Dieu. Ayant dit ces choses, des versets 4 et 5, il cracha en terre et fit de la boue de son crachat, et il mit la boue comme un onguent sur ses yeux et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Ce qui est interprété « envoyé ». Il s'en alla donc, et se lava, et revint voyant, versets 6 et 7. Pour accomplir cette œuvre, Dieu n'a pas parlé depuis le ciel. Il a envoyé sur cette terre son Fils, un homme semblable aux autres, mais sans péché. Un homme qui fut méprisé, quelqu'un de qui on cache sa face, dit Ésaïe. De sorte que son humanité créait comme un obstacle à l'homme naturel. Elle était comme de la boue sur ses yeux fermés, augmentant, si possible, sa cécité. Cette boue formait de son crachat ce qui venait de lui, vertu divine mélangée avec la terre, ce qui est humain, représentait l'humanité de Jésus. Mais pour celui qui reconnaissait que Jésus, cette forme humaine, était l'envoyé de Dieu, toute difficulté disparaissait. Non seulement la boue tombait, mais la cécité, les ténèbres faisaient place à la lumière. Ceux qui avaient pu dire « Il n'y a point d'apparence sans lui pour nous le faire désirer » Ésaïe 53, verset 2, peuvent dire aussi « Tu es plus beau que les fils des hommes, la grâce est répandue sur tes lèvres » Psaume 45, verset 2. L'aveugle-né est donc l'exemple de quelqu'un en qui cette œuvre s'est accomplie. Il se lava et revint voyant. Combien la grâce de Dieu est merveilleuse! Elle a rendu simple pour chacun le seul moyen efficace qui fasse passer des ténèbres à la lumière les misérables aveugles-nés que nous sommes tous par notre nature pécheresse. Pour Dieu, c'est le don de son propre Fils unique. Donc personne ne peut apprécier comme lui, mais qui sera pour tous les rachetés le sujet d'adoration et de louanges éternelles. Un changement pareil, produit chez l'aveugle-né, fait parler ses voisins et connaissances. Ce qui les frappe, c'est que précisément il était assis et mendiait. L'homme, dans son état naturel, est inactif pour Dieu, et sans la connaissance de Dieu, il doit avoir recours à ses semblables pour tous ses besoins. Les uns pensent que c'est bien lui, d'autres qu'il lui ressemble. Lui leur dit « C'est moi-même ». C'est en lui qu'un tel changement s'est opéré. Il ne sera plus assis, il sera actif pour le Seigneur. Il ne mendiera plus, il a bu à la source de tout bien. Il voit clair, aussi il va rendre témoignage ce que doivent faire tous ceux en qui l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Tous ces gens étonnés lui disent « Comment t'es ouvert tes yeux ?» Il répondit et dit « Un homme appelé Jésus fit de la boue et oignit mes yeux et me dit « Va à Siloé et lave-toi » et je m'en suis allé et je me suis lavé et j'ai vu. Ils lui disent donc « Où est cet homme ?» Il dit « Je ne sais » verset 10-12. L'aveugle ne connaissait Jésus que de nom, mais pour lui un fait était certain, c'est qu'ayant fait ce qu'il lui avait dit, il voyait. L'aveugle guérit devant les pharisiens, versets 13 à 23.
Lecture de la parole. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui auparavant était aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus fit la boue et qu'il ouvrit ses yeux. Les pharisiens donc aussi lui demandèrent encore comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Quelques-uns donc d'entre les pharisiens dirent, « Cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y avait de la division entre eux. Ils disent donc encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Et il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs donc ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent appelé les parents de celui qui avait recouvré la vue. Et ils les interrogèrent, disant, « Celui-ci est-il votre fils que vous dites être né aveugle ? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents leur répondirent et dirent, « Nous savons que celui-ci est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent ces choses parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un le confessait comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le. »
Lecture de l'étude. On amène aux pharisiens l'homme guéri. Dans quel but? Nous l'ignorons. Mais nous savons pourquoi Dieu le permit. C'était pour manifester l'état de ses chefs religieux en présence des œuvres de Dieu, comme il avait été manifesté en présence des paroles de Jésus au chapitre précédent. Ce miracle avait été opéré un jour de sabbat, fête très grave et très importante aux yeux des pharisiens, puisqu'il pouvait servir à trouver Jésus en défaut. Aux pharisiens qui lui demandent encore comment il a recouvré la vue, l'homme répète ce qu'il a déjà dit. « Il a mis de la boue sur mes yeux, et je me suis lavé, et je vois. » Que dire à Louis d'une déclaration aussi simple? Les uns s'écrient, cet homme n'est pas de Dieu, car il ne garde pas le sabbat. D'autres, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y avait de la division entre eux, versets 15 et 16. Ne sachant que conclure eux-mêmes, ils veulent encore avoir sur Jésus l'opinion de celui qui avait été guéri. Ils lui dirent, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Et il dit, « C'est un prophète. » Verset 17. Ils obtiennent déjà une confession de ce qu'était Jésus, car c'est ce qu'ils cherchaient. Pour chasser l'homme de la synagogue, ils voulaient lui faire avouer que Jésus était le Christ. Un prophète est un homme envoyé de Dieu et parlant de sa part. Au lieu d'admettre que Jésus en était un, les pharisiens préfèrent croire que cet homme n'a jamais été aveugle jusqu'à ce qu'ils entendent le témoignage de ses parents. S'il avait joui de la vue, ça aurait été un mensonge, une imposture, que de parler de sa guérison. Ils auraient alors eu de quoi s'élever contre Jésus. Les parents interrogés répondent, « Nous savons que celui-ci est notre fils et qu'il est né aveugle. » Mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas, nous. Il a de l'âge, interrogez-le. Il parlera de ce qui le concerne, versets 19 à 21. Nouvel embarras des pharisiens. Comment tirer de là quelque chose contre Jésus et ôter à cet homme la confiance qu'il avait en son bienfaiteur? Les parents craignaient les Juifs, car ils savaient que si quelqu'un confessait Jésus comme le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ils ne veulent aller plus loin dans leur déposition et se déchargent sur leur fils, disant « Il a de l'âge, interrogez-le », versets 22-23. La crainte des Juifs, la frayeur de n'avoir plus part à la religion du monde, a plus d'effet sur les parents que la grâce et la puissance de Jésus déployées en faveur de leur fils. Loin de faire comme Moïse, qui avait estimé l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte, Hébreux 11, verset 26, il préfère rester du côté des ennemis du Seigneur plutôt que de le confesser. Il rejette sur leur fils les conséquences de sa confession. Peu leur importait son exclusion de la synagogue, pourvu qu'eux y restassent. Il le laisse entre les mains des pharisiens. Aussi, il va paraître à nouveau devant cette sorte de tribunal inquisitorial. Que de personnes auront choisi le malheur éternel pour avoir craint l'opprobre comme les parents de l'aveugle. Le Seigneur dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. » Luc 12, versets 4 et 5. Celui qu'il faut craindre est le Dieu qui fait grâce aujourd'hui. Mais il deviendra le juge de ceux qui auront méprisé cette grâce pour plaire aux hommes et s'épargner l'opprobre de Christ pendant les quelques jours que nous passons ici-bas. Beau témoignage de l'aveugle guéri, versets 24 à 34.
Lecture de la parole. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu ! Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit donc « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent encore « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. » Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, « Toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. Pour nous, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » L'homme répondit et leur dit, « En ceci, pourtant, il y a une chose étrange, que vous ne sachiez pas d'où il est, et il a ouvert mes yeux. Or nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs, mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l'écoute. Jamais on n'ouït dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répondirent et lui dirent, « Tu es entièrement né dans le péché, et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent dehors.
Lecture de l'étude. Les pharisiens rappellent l'aveugle né. Assurés de sa guérison, ils veulent bien l'attribuer à Dieu, mais ils cherchent à obliger cet homme à penser de Jésus comme eux. Il leur avait dit « c'est un prophète ». C'était déjà trop pour eux. Ils voulaient faire considérer Jésus comme un pécheur. Comme preuve, ils allèguent qu'il avait violé le sabbat en faisant de la boue, verset 16. Ils lui dirent donc « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur », verset 24. Comment concilier ces deux faits, croire en Dieu et dire de son fils envoyé par lui dans ce monde qu'il est un pécheur? Quelle valeur peut avoir cette foi pour Dieu? Hélas, de nos jours c'est la foi d'un grand nombre, même de ceux qui ne disent pas ouvertement que Jésus est un pécheur, mais qui ne croient pas en sa divinité. Nous avons vu au chapitre 3 que le Père, ayant remis toutes choses entre les mains de son Fils, C'est donc avec lui que l'homme doit avoir affaire pour son salut. En conséquence, qui croit au Fils a la vie éternelle, mais qui désobéit au Fils, en ne croyant pas, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui avait été aveugle ne sait pas si Jésus est un pécheur, mais il sait une chose que les pharisiens savaient aussi, c'est qu'il était aveugle et que maintenant il voyait, versets 25 et 26. Non satisfaits encore, ces malheureux juifs veulent faire parler l'homme afin d'obtenir de lui un témoignage défavorable pour Jésus. Ils lui disent encore, « Que t'a-t-il fait ? Comment a-t-il ouvert tes yeux ?» Question tout à fait superflue. Aussi leur répond-il, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous encore l'entendre ? Voulez-vous aussi, vous, devenir ses disciples ?» Verset 27. Cet homme simple et droit comprend qu'ils ont un motif caché en voulant le faire parler. Mais ce n'était pas afin de devenir les disciples de Jésus. Ne pouvant rien tirer de cet homme à leur profit, et comprenant qu'il se place au nombre des disciples de celui qui lui avait ouvert les yeux, les pharisiens l'injurièrent et lui dirent « Toi, tu es le disciple de celui-là, mais nous, nous sommes disciples de Moïse. Mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Versets 28 et 29. En effet, Dieu avait parlé à Moïse. Mais qu'en faisait-il, puisque Moïse avait parlé de Jésus ? Chapitre 5, verset 46.
« Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, car lui a écrit de moi. »
Et que faisait-il de tout ce que Jésus leur avait dit au chapitre précédent, où non seulement Dieu avait parlé à Jésus, mais où il parlait en lui ? On ne peut rien contre la volonté de ceux qui refusent de croire, puisque le seul moyen d'avoir la foi est d'écouter la parole de Dieu. L'aveugle d'autrefois est maintenant compté par les pharisiens au nombre des disciples de Christ. Ils ne se trompent pas. Leurs injures auront pour effet de lui faire rendre un témoignage encore plus précis qu'ils ne pourront supporter. L'homme répondit et leur dit, « En ceci pourtant il y a une chose étrange que vous ne sachiez pas d'où il est, et il a ouvert mes yeux. Or, nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est pieux envers Dieu et fait sa volonté, celui-là il l'écoute. Jamais on n'ouï dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Versets 30 à 33. Plus haut, l'homme guéri dit aux pharisiens qu'il ne savait pas si Jésus était un pécheur. Mais ici, il leur donne les preuves qu'il ne l'était pas, puisqu'il avait opéré un miracle avec la puissance de Dieu qui n'est pas à la disposition d'un pécheur, car Dieu n'écoute pas les pécheurs. Il se porte donc garant que Jésus faisait la volonté de Dieu et qu'il était de Dieu. Bientôt, il apprendra qu'il est le Fils de Dieu. Sous l'effet de la haine des Juifs, la foi et la connaissance de cet homme se développent de manière à le caractériser comme disciple de Jésus. Aussi, ils ne peuvent plus le supporter et lui disent « Tu es entièrement né dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent dehors, verset 34. Jésus avait dit, de l'aveugle, à ses disciples « Ni celui-ci n'a péché, ni ses parents pour qu'il soit né aveugle. » Tandis que les pharisiens attribuent sa cécité à ses péchés pour mépriser le témoignage qu'il rend à Jésus, la foi plaçait cet homme bien au-dessus d'eux et le rendait capable de les enseigner. Ses paroles, comme celles de Jésus, atteignaient leur conscience, et pour se donner l'illusion de la soulager, ils le chassèrent dehors, là où se trouvait déjà Jésus, comme résultat aussi de son témoignage fidèle. L'aveugle guéri rencontre le Fils de Dieu, versets 35 à 41.
Lecture de la parole. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Et tu l'as vu, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur, et il lui rendit hommage. » Et Jésus dit, « Moi, je suis venu dans ce monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Et quelques-uns d'entre les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces choses et lui dirent, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, votre péché demeure. »
Lecture de l'étude. Jésus apprit qu'il l'avait chassé dehors, et l'ayant trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Et tu l'as vu ? Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il lui dit, « Je crois, Seigneur. » Et il lui rendit hommage, verset 35-38. Il ne paraît pas que Jésus ait revu l'aveugle depuis qu'il l'avait envoyé se laver à Siloé. Il le laissa rendre son témoignage qui devint de plus en plus clair à mesure que grandit l'opposition des Juifs, mais le fait chasser là où le Seigneur l'attend, où il était avant lui, hors de leur système religieux. Jésus ne l'avait pas perdu de vue, mais il attendait le moment opportun pour se révéler à lui comme l'objet dont son cœur avait besoin. Il fallait, à une vue nouvelle, un objet nouveau, car cette vue ne trouvait rien qui la satisfît dans le milieu dont son Seigneur était exclu. Avec la lumière dont il jouissait, il ne pouvait avoir que Christ pour objet. Jésus le trouve, donc il l'avait cherché. Pensée encourageante pour les nouveaux convertis qui ont à subir l'opprobre dans le milieu où ils se trouvent. Le Seigneur s'occupe d'eux. Il veut leur révéler toujours plus ce qu'il est, afin que, dans leurs difficultés, la connaissance de lui-même remplisse leur cœur de joie et de paix, et leur aide à supporter les conséquences de leur nouvelle position. Lui seul peut satisfaire les désirs de la nouvelle nature, mais on ne peut en jouir qu'en dehors du monde religieux dont le croyant ne fait plus partie. À tout ce que l'aveugle guéri connaissait de Jésus et dont il rendit témoignage aux pharisiens, le Seigneur veut ajouter une connaissance plus grande de lui-même. Il se présente à lui comme Fils de Dieu, objet de la foi qui rend victorieux du monde dont le croyant n'est plus. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Dit le même apôtre dans sa première épître, chapitre 5, verset 5. Cette connaissance est nécessaire pour rendre parfaitement heureux celui qui n'a plus sa place dans le camp religieux d'où Jésus est rejeté. Le cœur de cet homme était préparé à apprendre tout ce que Jésus voulait lui dire de lui-même. Aussi, lorsqu'il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?», il s'empresse de lui dire « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Dès qu'il apprend que c'est Jésus lui-même, il croit et lui rend hommage. Pour le racheter, le Sauveur devient le Seigneur. Son amour divin s'est acquis tous les droits sur lui. Cette seigneurie n'est pas imposée. Le cœur la reconnaît. Ce Seigneur est le Fils de Dieu. Il devient l'objet infini, insondable, du cœur renouvelé. Il suffit, pour traverser ce monde en étranger, pour avoir la victoire sur tout ce qui le caractérise, parce que le cœur est occupé d'un objet qui a infiniment plus de valeur que tout ce qui est dans le monde. Les gloires et les perfections d'une telle personne le remplissent de manière à exclure tout ce qui n'est pas de Christ. C'est de lui que les croyants seront occupés dans le ciel lorsque tout ce qui est de ce monde aura disparu. C'est pourquoi Jésus suffit pour détourner les regards de ces choses avant même qu'elles disparaissent. Dans la réponse de l'aveugle au Fils de Dieu, « Je crois, Seigneur », et il lui rendit hommage, nous trouvons tout ce qui caractérise la vie divine. La foi, je crois. Le Seigneur, la reconnaissance de ses droits qui implique l'obéissance qui lui est due, c'est ce qui doit caractériser la vie du croyant et l'hommage qui est dû au Fils de Dieu. Jésus dit, « Moi, je suis venu dans le monde pour le jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles », verset 39. Jésus ne parle pas ici de l'exécution du jugement. Il dit au contraire qu'il n'est pas venu pour juger. Chapitre 3, verset 17.
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui.
Chapitre 12, verset 47.
Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde.
Mais la conséquence de sa venue comme lumière manifeste l'état d'aveuglement de l'homme qui refuse cette lumière, de ceux qui sont moralement aveugles. Ce jugement de ce qu'ils sont n'avait jamais été porté sur eux avant qu'ils eussent eu l'occasion de refuser la lumière. Mais ceux qui reconnaissent leur état d'aveuglement moral, dont l'aveugle-né était la figure, reçoivent Jésus et voient. Quelques-uns des pharisiens qui entendirent ces paroles en comprirent très bien le sens figuré. Ils dirent à Jésus, « Et nous, sommes-nous aussi aveugles ?» Jésus leur dit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. » Verset 40-41. Ces chefs religieux prétendaient voir et conduire les autres, tandis qu'ils étaient aveugles. Ils offrent un tableau de leur état dans leur discussion avec l'aveugle devenu voyant. Mais tout en ayant la prétention de voir, ils demeurent aveugles. Leur péché, consistant à rejeter la lumière venue dans la personne du Seigneur, demeurait. Cependant, par la grâce de Dieu, s'ils reconnaissaient leur état et profitaient de la venue de Jésus, ils verraient, et leur péché ne leur serait pas compté, puisque Jésus était venu pour les délivrer de leur misérable état. L'histoire de l'aveugle-né introduit le sujet du chapitre suivant qui nous parle du berger. Le véritable berger d'Israël est Jésus. Il prend soin de ses brebis qui ne peuvent trouver ce qui leur convient dans la bergerie juive, ainsi que nous venons de le voir avec l'aveugle devenu une brebis du bon berger. Jésus est venu pour sortir les siennes cette enceinte, et pour leur donner la liberté que la grâce leur apporte.